RFI 9h à Paris, 7h en temps universel. Et le journal avec vous, Victor Missistrano, à la une. Le premier tour des élections législatives en France, les bureaux de vote ont ouvert il y a une heure dans l'Hexagone.
Nous serons en direct de l'un d'entre eux près de Paris. La participation s'annonce en nette hausse pour un scrutin anticipé et particulièrement scruté au terme d'une campagne de seulement 3 semaines. En Iran, le premier tour de la présidentielle a au contraire été marqué par une abstention sans précédent dans l'histoire de la République islamique, alors qu'un réformateur et un ultra-conservateur s'affronteront pour la succession d'Ebrahim Raisi. Et puis le tenant du titre sorti en 8e de finale de l'Euro de football, l'Italie s'est inclinée 2-0 contre la Suisse. La presse italienne n'est pas tendre avec sa squadra, nous irons à Rome dans un instant.
C'est donc un nouveau dimanche de vote qui s'est ouvert. Les Français appelés à retourner aux urnes 3 semaines après les élections européennes.
Au soir des résultats, le président Emmanuel Macron avait annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. Il s'agit donc d'élire les 577 députés au terme d'une campagne historiquement courte. Tout près de Paris, on retrouve en direct de Nanterre Amélie Beaucourt. Bonjour Amélie, vous vous trouvez dans le plus grand bureau de vote de la ville et c'est donc un scrutin très particulier.
Oui, bonjour Victor. Ici, on s'active depuis une heure et on sent à l'agitation du personnel du bureau de vote dans cette école maternelle de Nanterre que les équipes ont été un peu prises de court. La journée va être chargée, me confie la responsable, et on le voit aux petits bouchons qui se forment à l'entrée du bureau. Cette responsable, elle a l'oreille collée au téléphone depuis tout à l'heure, en ligne avec la mairie pour essayer de régler quelques problèmes que rencontrent les électeurs, notamment au niveau des procurations. Un monsieur venu voter pour son papa qui vit au Brésil n'a par exemple pas pu glisser son bulletin dans l'immédiat, mais va devoir repasser plus tard dans la journée. C'est aussi ce que me disait un monsieur du quartier venu voter très tôt, car il doit ensuite faire une heure de route pour aller voter pour sa maman à 50 km d'ici. Et il regrette qu'en 2024, ces démarches ne soient pas facilitées, surtout pour ces élections législatives, me disait-il avec un peu d'inquiétude dans la voix. Elles ont un goût particulier, il faut dire, me confirmer une maman venue voter avec sa poussette, parce qu'elles ont fait plus de bruit déjà, parce que selon elles, elles vont permettre de mobiliser davantage et ça, selon elles, c'est quand même plutôt positif.
Amélie Beaucourt, merci. J'ajoute que selon le ministère de l'Intérieur, plus de 2 600 000 procurations ont été établies pour ces législatives. C'est 4 fois plus qu'il y a 2 ans, Julien, sur une période comparable.
Le premier tour de la présidentielle iranienne a au contraire été marqué par une très forte abstention.
Oui, 6 électeurs sur 10 ne sont pas allés voter. C'est du jamais vu depuis la création de la République islamique il y a 45 ans. Pour la deuxième fois de son histoire, il y aura un second tour. Le 5 juillet, les Iraniens devront choisir entre le candidat réformateur Massoud Pezeshkian et l'ultra-conservateur Saïd Jalili. Le vainqueur succédera au président Ebrahim Raisi, décédé le mois dernier dans un accident d'hélicoptère. Lors de son élection, il y a 3 ans, la participation avait été de près de 50%. Elle avait été même supérieure à 60 ou 70% lors des élections précédentes. Siavosh Ghazi.
Dans ce quartier commerçant du centre de Téhéran, rares sont ceux qui acceptent de parler aux médias. Beaucoup se désintéressent de l'élection et refusent de s'exprimer. Mohamed, un commerçant de 40 ans, n'a jamais voté dans sa vie.
Non, jusque-là, je n'ai jamais participé à une élection et je n'y participerai pas, car cela n'aura aucun effet. La plupart pensent que le réformateur Pezeshkian est mieux. Si c'est Jalili, il y aura plus d'augmentation des prix et d'inflation. Notre vote n'a aucun effet. Ils décident eux-mêmes.
Aux 60% d'abstentionnistes, soit 37 millions d'électeurs, il faut ajouter plus d'1,5 million d'Iraniens qui ont glissé un bulletin blanc ou nul dans l'urne, comme c'est le cas de Reza, un jeune de 18 ans qui ne se fait pas d'illusions.
J'ai voté blanc, je n'ai voté pour personne. J'ai glissé un bulletin blanc, qu'est-ce que cela change pour nous lorsque c'est quelqu'un d'autre qui prend les décisions pour gouverner? Pour nous, il n'y a aucune différence, que ce soit Jalili ou Pezeshkian, il n'y a pas de différence pour nous.
Les réformateurs espèrent pourtant une mobilisation des abstentionnistes pour le second tour, mais leur tâche paraît bien difficile face au candidat ultra-conservateur Saïd Jalili. Siavosh Ghazi, Téhéran RFI.
L'Iran met en garde Israël après les propos de son ministre de la Défense, Yoav Gallant, a affirmé cette semaine que son pays avait la capacité de ramener le Liban à l'âge de pierre. tous les membres de l'axe de la résistance, qui comprend l'Iran et ses alliés régionaux, pourraient être mobilisés en cas d'offensive contre le Hezbollah au Liban. Message posté par la mission iranienne auprès des Nations Unies. La Russie annonce avoir détruit cette nuit 36 drones ukrainiens dans 6 régions de l'ouest du pays. Les gouverneurs de celles de Lipetsk et Bryansk précisent que les attaques n'ont fait aucune victime. Hier, 11 personnes sont mortes dans des frappes russes, selon les autorités ukrainiennes. Le président Volodymyr Zelensky a appelé ses alliés occidentaux à accélérer leur livraison d'armes.
En ce 30 juin 2024, la République démocratique du Congo célèbre les 64 ans de son indépendance.
Hier soir, Félix Tshisekedi a prononcé un discours à cette occasion. Le président qui s'est aussi exprimé au sujet des difficultés de l'armée congolaise à l'est du pays. La ville clé de Kanyabayonga au nord Kivu est tombée vendredi aux mains des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Un conseil supérieur de la défense élargie s'est tenu hier autour du président. Ce dernier a recueilli perspectives et mesures. Objectif, récupérer cette cité de 60 000 personnes qui ouvre la voie sur des villes du nord de la province du Nord et certaines autres localités occupées au Nord. C'est ce que nous rapporte le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya.
Après près de 3 heures des discussions et un tour d'horizon avec les différentes autorités militaires, des perspectives et des mesures ont été proposées au président de la République pour que les forces armées de la République puissent très rapidement remettre de l'ordre dans cette partie du pays et reprendre certaines autres localités qui ont été occupées par les forces rwandaises. En même temps, le président de la République a tenu à rendre un vibrant hommage aux forces armées qui défendent au prix de leur vie la patrie. Et il a lancé un appel à toutes les populations de cette partie du pays, mais aussi à tous les Congolais, pour nous assurer que partout où nous sommes, nous faisons d'abord preuve de solidarité pour toutes les populations et les compatriotes qui sont touchés directement par ces événements, mais aussi la nécessité pour nous de veiller à la préservation de la patrie. Il est donc important que dans ces contextes, que les Congolais se méfient de tout ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux pour ne pas prêter les flancs au jeu de l'ennemi, parce que vous savez que c'est aussi sur ce terrain que les jeux séjournent pour démobiliser les Congolais, toucher le moral de nos vaillants soldats qui sont engagés sur le front.
Patrick Muyaya, le porte-parole du gouvernement congolais, au micro de notre correspondant Pascal Moulécois.
C'est la maladie génétique la plus fréquente au monde. La drépanocytose est peut-être en phase de pouvoir être guérie dans certains cas.
Oui, c'est une maladie chronique du sang pour laquelle il n'existe pour le moment pas de traitement curatif, mais une thérapie génique existe désormais. Celle-ci est déjà utilisée aux États-Unis ou encore en Angleterre. Le Casgevy, c'est son nom, fait l'objet actuellement en France de discussions au niveau des autorités sanitaires. Précision Aram Beng.
La Haute Autorité de Santé devrait autoriser le Casgevy, premier traitement utilisant des ciseaux moléculaires contre la drépanocytose. Une technique révolutionnaire, selon le docteur Laure Joseph, hématologue en charge des greffes et des thérapies géniques à l'hôpital Necker de Paris.
C'est une technique révolutionnaire parce que ça ressemble à une greffe de cellules souches, c'est-à-dire on prélève les cellules du patient pour leur apporter une modification pour qu'elle puisse produire une hémoglobine qui est normale, thérapeutique pour le patient.
Une thérapie génique qui devrait permettre la guérison de certains malades, mais les patients qui en bénéficieront devront être mis sous chimiothérapie.
L'inconvénient de ce traitement, c'est que comme ça ressemble à une greffe de cellules souches, donc là c'est une autogreffe de cellules souches génétiquement modifiées, eh bien il faut traiter le patient pour qu'il puisse accepter ces cellules et qu'elles prennent la place de ces cellules malades à l'intérieur de la moelle osseuse. Et donc ça veut dire qu'il faut une chimiothérapie pour faire la place dans la moelle osseuse pour que ces cellules modifiées puissent les remplacer et donner un bénéfice aux patients.
Une fois que la HAS aura autorisé son utilisation en France, l'accès au Casgevy sera restreint à des malades de moins de 35 ans et qui ont une forme grave de la maladie pour lesquelles il n'y a pas d'alternative thérapeutique.
Explication signée à Rambeng.
RFI 9h09 à Rome, l'Italie se remet ou tente de se remettre de l'élimination de son équipe en 8e de finale de l'Euro de football.
Et le champion en titre s'est fait surclasser hier par la Suisse 2-0. La Squadra Azzurra qui va rentrer tête basse après les commentaires de la presse quant à cet échec. Bonjour Anne Lenir.
Bonjour Victor et bonjour à tous nos auditeurs.
Correspondante d'RFI à Rome, Anne, on imagine que la colère se mêle à l'humiliation et à l'amertume.
Absolument. L'échec de la Squadra Azzurra est vécu comme un des pires dans l'histoire du calcio. La célèbre Gazzetta Sportiva aux feuilles roses titre en une page noire pour notre foot. Tout est à reconstruire. Pour ce quotidien sportif le plus long d'Italie, le sélectionneur Luciano Spalletti est l'accusé numéro un en raison de ses trop nombreuses erreurs techniques et tactiques. Du coup, je cite, l'Italie a joué sans caractère, sans honneur et sort de l'Euro 2024 humiliée par la Suisse. De son côté, la Repubblica parle de la petite Italie qui rentre déjà à la maison et souligne. Il faut beaucoup de mémoire pour se souvenir d'une équipe nationale aussi mauvaise que celle-ci et beaucoup de fantaisie pour en imaginer une meilleure. On a vu une équipe délabrée qui n'a même pas donné l'illusion d'exister, ne serait-ce qu'une minute. Il Corriere della Sera estime que personne n'est à sauver après cette défaite sans excuse qui exige une réflexion collective. Même ton pour Il Fatto Quotidiano, désastre total pour la Squadra Azzurra, sans jeu et sans cœur. Bref, on sent que les Italiens ne sont pas prêts de digérer ce qu'ils appellent le fracassant Euroflop.
Anne Lenir, merci, correspondante d'RFI à Rome. Ça passe en revanche pour l'Allemagne qui continue sa route à domicile dans cette Eurovictoire. 2-0 de la Mannschaft contre le Danemark. Aujourd'hui, place à de nouveaux huitièmes de finale, Angleterre-Slovaquie et Espagne-Géorgie.
Enfin, on ne la présente plus, c'est la pop star qui bat tous les records. Taylor Swift est en pleine tournée planétaire.
Ce week-end, l'artiste américaine est en Irlande, à Dublin, pour 3 concerts. Dernier show ce soir. Notre correspondante Clémence Pénard est partie à la recherche des racines irlandaises de Taylor Swift.
Les bracelets d'amitié s'entrechoquent, les bottes de cow-boy enjambent les trottoirs de Dublin. 150 000 fans sont là pour voir Taylor Swift. L'occasion de se pencher sur sa généalogie. Eilish Carew du musée de l'émigration irlandaise.
À l'origine, avant l'histoire d'amour de sa chanson Love Story, il y a une autre histoire d'amour. Taylor Swift ne sait pas que ses arrière-arrière-arrière-grands-parents ont émigré de Derry, en Irlande du Nord, en 1836. Suzanne Davis était couturière et Francis Gwen, lui, était tisserand. 2 mois plus tard, leur bateau a accosté à Philadelphie et 3 ans plus tard, Suzanne et Francis se sont mariés. And 3 years later,
Susan and Francis actually got married. Taylor Swift est ainsi une vraie Derry girl, d'après Eilish. When you think of all the
songs she's written, quand on pense à toutes les chansons qu'elle a écrites, on décèle un trait de caractère irlandais. Nous sommes des conteurs dans l'âme et la raison d'exister de notre musée, c'est justement de raconter l'histoire de 10 millions de personnes qui ont émigré d'Irlande au fil des années.
Le musée espère donc pouvoir raconter son histoire à la star avant qu'elle ne reparte pour sa tournée. Prochaine étape, Amsterdam. Clémence Pénard, Dublin, RFI.
Et c'est donc en musique que se termine ce journal. RFI Matin continue avec vous, Julien Coquel-Rohem.
Merci Victor Missistrano, bon dimanche à vous. RFI Matin, la suite, un nouveau journal Afrique dans un peu plus d'un quart d'heure. La Mauritanie à nouveau à la une après le premier tour de l'élection présidentielle hier. Reportage dans un bureau de vote à l'heure du dépouillement à 7h30, temps universel. À suivre d'ici là le point avec Vincent Souriau sur ses discussions organisées au Qatar avec les talibans et puis des milliers de choristes réunis sur scène pour honorer une tradition vieille de 100 ans, notre reportage culture à Vilnius tout à l'heure. Mais tout de suite un œil sur la presse. Avec vous Catherine Potet, à la une de la presse internationale, nouvelle manifestation en Israël contre Benjamin Netanyahou.
Oui, la photo est en une d'Haaretz, une foule compacte brandissant des drapeaux israéliens dans les rues de Tel Aviv. Le quotidien israélien titre sur les dizaines de milliers de personnes qui ont manifesté hier soir contre le Premier ministre israélien et pour un accord en faveur des otages à Gaza. Des otages dont les proches prennent la parole. Einav Zangoker, dont le fils est à Gaza, n'a pas de mots assez durs pour Benjamin Netanyahou. Les gens comprennent qu'il prolonge la guerre pour ses intérêts personnels et que si un accord mettait fin à la guerre, cela provoquerait des élections et la fin de son règne. Il s'accroche à son pouvoir au détriment de nos familles à Gaza. Autre témoignage à charge, celui du frère d'un otage qui accuse Netanyahou d'avoir abandonné les otages dans un seul but, rester au pouvoir. Un journaliste israélien, Avi Sacharov, accuse lui le premier ministre de renforcer le Hamas et de répandre la haine et la division parmi les Israéliens. Il doit partir, s'exclame-t-il.
Aux États-Unis, à présent, les journaux continuent d'évaluer les conséquences du débat raté de Joe Biden contre Donald Trump.
Et la question principale est toujours la même. Joe Biden doit-il renoncer à la course à la Maison-Blanche? Et en la matière, les propos de l'épouse du président, Jill Biden, sont scrutés à la loupe car elle a la réputation d'être très écoutée de son mari. Alors qu'a-t-elle dit? C'est le journal La Nation en Argentine qui nous donne la réponse. Parlons donc du débat d'hier soir, a-t-elle lancé lors d'un dîner de collecte de fonds à New York. Comme Joe l'a dit aujourd'hui, ce n'est pas un jeune homme, a-t-elle poursuivi. Après le débat d'hier soir, il m'a dit « Tu sais, Jill, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne me sentais pas très bien. » Je lui ai dit « Écoute, Joe, nous n'allons pas laisser 90 minutes résumer les 4 années pendant lesquelles tu as été président. » La salle, nous dit La Nation, a éclaté sous les applaudissements.
Direction le Kenya, où des maires expriment leur sentiment d'abandon.
C'est le Sunday Times qui raconte l'histoire de ces jeunes femmes kenyanes, mères d'un enfant qu'elles ont eu avec un soldat britannique en poste au Kenya. C'est le cas de Jenerika Namoru, dont la petite fille métisse a 5 ans. Elle est venue témoigner devant une commission parlementaire qui s'est installée à Archer's Post dans le centre-ouest du Kenya. Elle raconte avoir rencontré le père de sa fille alors qu'elle travaillait comme agent de sécurité dans le camp militaire proche d'Archer's Post. Elle avait 22 ans à l'époque, il avait la quarantaine, ils entretenaient une relation, mais le soldat a abandonné son enfant et est retourné au Royaume-Uni. « Je dois me battre pour offrir une belle vie à ma fille », raconte Jenerika. « Les gens se moquent de moi parce que j'ai un enfant blanc et que je suis toujours pauvre. » Selon le Sunday Times, il n'existe aucune trace officielle des enfants engendrés par des soldats britanniques, mais Amnesty International estime qu'il y a environ 40 enfants métis dans la région. Les jeunes femmes concernées ne reçoivent aucune aide. Toutefois, elles ont désormais la possibilité de s'exprimer devant la commission de défense du gouvernement kényan sur le comportement des soldats britanniques affectés dans leur pays. Les organisations de défense des droits de l'homme alertent sur les problèmes auxquels sont confrontés les enfants métis qui grandissent dans les villages autour d'Archer's Post, indique le Sunday Times. Les mères déclarent que leurs enfants sont souvent victimes d'intimidation, d'ostracisme et sont traités de Mzungu Maskisini, autrement dit de pauvres blancs.
Et puis terminons cette revue de presse, Catherine, avec des nouvelles de notre cerveau.
Oui, notre cerveau qui travaille beaucoup et qui mérite donc de temps en temps de se reposer. C'est le Washington Post qui nous éclaire sur la question et qui nous explique qu'une pause de seulement 10 minutes peut stimuler notre organisme et réduire la fatigue. La science montre que cela nous aide à être en meilleure santé, plus concentré, plus productif et plus créatif. Mais nous n'en avons pas vraiment conscience. Or, notre cerveau n'est pas conçu pour gérer une activité constante. De courtes pauses, que vous preniez quelques respirations avant d'entrer dans une pièce ou que vous marchiez dans les bois pendant 10 minutes, peuvent conduire à une introspection nécessaire, nous explique le Washington Post, qui précise que les temps d'arrêt sont différents de l'ennui. Autrement dit, consulter compulsivement son smartphone en cas de désœuvrement n'est pas ce qu'il convient d'appeler une pause stimulante pour notre cerveau.
Ça va mieux en le disant. Merci Catherine Potet, très bonne journée.
RFI Matin.
C'est une rencontre critiquée, bientôt 3 ans après le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan, alors que le pays a plongé dans la pauvreté et que les Nations Unies évoquent un apartheid de genre mis en place depuis 2021. L'ONU organise aujourd'hui et demain 2 jours de discussion avec les talibans à Doha, au Qatar. Les pourparlers commencent ce matin et ils font polémique puisque oui, les talibans ont accepté de venir, mais à condition que le dossier des droits des femmes soit relégué au second plan. Bonjour Vincent Souriau.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Reculade spectaculaire des Nations Unies, incapable de trouver la bonne formule pour entretenir un dialogue politique avec les islamistes afghans.
À ce stade, Julien, on se demande même à quoi ça sert. Pourquoi parler politique avec des talibans qui sont revenus au pouvoir en août 2021, il y a presque 3 ans, et qui n'ont fait aucune concession? Pourquoi l'ONU s'acharne-t-elle? Officiellement, l'idée du cycle de Doha, c'est d'établir une relation plus structurée, mieux organisée avec la mouvance talibane. On sait que plusieurs pays ont des échanges avec l'Afghanistan, mais chacun de leur côté, les pourparlers serviraient à trouver une approche commune.
Ça, c'est le discours officiel.
Oui, mais comme toujours, il y a un sous-texte. En réalité, nous dit une source diplomatique, le processus de Doha, à l'origine, c'est une initiative américaine. En 2021, les États-Unis se sont retirés d'Afghanistan en urgence. Ils ont coupé d'un seul coup tous leurs contacts. Mais lorsque la poudre est retombée, ils ont voulu revenir dans le jeu en lançant ces discussions.
Est-ce qu'elles ont produit des résultats ?
Aucun résultat. Il y a eu Doha 1 en mai 2023, les talibans n'étaient pas invités. Doha 2 en février 2024, les talibans ont voulu être reçus en personne par Antonio Guterres, le patron de l'ONU. On leur a dit non, il ne faudrait peut-être pas pousser. Et à partir d'aujourd'hui, Doha 3, où cette fois-ci les digues ont bel et bien sauté. Les talibans exigent que les droits des femmes disparaissent de l'ordre du jour. On leur dit oui. Ils refusent de partager leur table ronde avec les associations féministes et les membres de la société civile afghane. On leur dit oui.
Mais pour quelle raison ?
Parce que l'un des objectifs de Doha, c'est d'obtenir la nomination d'un envoyé spécial de l'ONU en Afghanistan. Et ça, il faut en parler directement avec les talibans. Les Américains, qui n'ont plus de réseau sur place, nous dit-on, ne veulent pas laisser le champ libre aux voisins du régime taliban, Chine, Iran, Pakistan, plus la Russie, qui sont bien contents de faire du commerce avec Kaboul en toute impunité. L'envoyé spécial de l'ONU servirait en quelque sorte à garder tout ça sous contrôle.
Et Vincent, les talibans dans tout ça ?
Ils se frottent les mains, sûrement. Depuis 3 ans, ils font ce qu'ils veulent en Afghanistan. Les fillettes au-delà de 12 ans n'ont toujours pas le droit d'aller en classe, mais on les invite à Doha à leurs conditions et ils obtiennent le semblant de reconnaissance qu'ils cherchent depuis 2021. On peut dire, conclut l'une de nos sources proches des discussions, qu'ils nous mènent en bateau.
Vincent Souriau, merci. Et à noter les mots d'Agnès Callamard, la secrétaire générale d'Amnesty International, qui s'inquiète d'un risque de légitimer le système d'oppression mis en place par l'État. Et dans Chemin d'écriture, ce matin, le franco-congolais Eric Mukendi, l'écrivain, s'était fait connaître en 2023 en publiant, aux éditions Gallimard, son premier roman « Mes deux papas », un récit subtil et drôlatique sur les heurts et malheurs du multiculturalisme, doublé d'une éducation sentimentale dans la France du XXIe siècle. Il vient de publier « Le blues du dimanche soir », recueil de 3 nouvelles, ou comme le dit son éditeur, 3 variations sur la solitude et l'amour. Bonjour Tirtan Karchanda.
Bonjour Julien Coquelroem, bonjour à toutes et à tous.
Pour commencer, 2 mots peut-être, Tirtan Kar, sur Eric Mukendi.
Installé en France depuis l'âge de 7 ans, Eric Mukendi est romancier. Nous avions parlé de son premier roman, Mes deux papas, dans cette chronique. Les 3 nouvelles qui composent le nouveau livre de Mukendi confirment sa belle maîtrise de l'art de la narration romanesque.
Que racontent les nouvelles du blues du dimanche soir ?
Elles racontent des vies revues et corrigées à travers le prisme de la mémoire. Ce sont des histoires d'amour avec leur pesant de fantasmes qui se réalisent ou ne se réalisent pas. Eric Mukendi.
Au départ, c'était un recueil de 5 nouvelles. Je voulais faire un recueil assez éclaté avec des styles différents. C'est la maison d'édition qui en a choisi 3. Et d'une certaine manière, ils ont bien fait parce que je trouve qu'il y a une belle cohérence entre ces 3 nouvelles.
Alors, Tirtan Kar, qu'est-ce qui fait que les 3 nouvelles fonctionnent bien ensemble ?
Cela s'explique sans doute par leur thématique commune de la rencontre. Cette rencontre est sexuelle, intellectuelle et voire métaphysique, notamment dans la dernière nouvelle où il est question de la résurrection et de l'après-vie.
Votre nouvelle préférée, je crois, est la 2e.
En effet, c'est sans doute la plus subtile et la plus littéraire aussi. On y fait la connaissance de Robert, le vigile surdiplômé qui rencontre Annie, prof de lettres. Dans la description de la rencontre du couple, il y a de la séduction et peut-être promesse de plus si affinité. Puis patatras, la promesse vient se fracasser sur le mur d'un différend littéraire et historique concernant le célèbre voyage au Congo d'André Gide qui, on s'entend, avait fait scandale en levant le voile sur la réalité des relations euro-africaines. Mais pour Robert, l'écrivain n'en est pas moins resté prisonnier de ses préjugés. Comment digérer tant d'outrecuidance de la part d'un simple vigile ? Cela va mettre fin à l'espoir de ce dernier de séduire la belle française. Eric Mukendi.
Pour moi, ces trois nouvelles, ça parle de ce que les rencontres jouent dans la vie. Des personnages qui sont un peu dans une vie qui ne leur convient pas d'une certaine manière et qui sont obligés de faire avec. Je voulais traduire cette frustration et cette tension vers quelque chose qui serait de l'ordre de l'idéal et puis en même temps faire face au quotidien. C'est ça que je voulais raconter. Pour les deux premières, la troisième, c'était plutôt raconter une histoire qui mêle le policier, le fantastique et même un peu le métaphysique. La troisième est un peu différente, même si on retrouve un personnage masculin qui est pris dans une situation qui le dépasse.
Les personnages de Mukendi, Tirthankar, sont en quête d'idéal.
Ils sont en effet en quête d'un idéal de justice et de fraternité. Une quête qui fonde l'écriture même d'Éric Mukendi.
Je sais bien que ce qui compte d'abord dans la littérature, c'est d'abord le style, c'est d'abord comment on écrit, et c'est pas une histoire morale, c'est pas une histoire de morale, mais je pense pas que l'esthétique littéraire aille sans une conception morale de l'œuvre non plus, je crois pas.
C'est cette conviction qui a conduit le Congolais, comme il l'a confié au micro de RFI, à faire de Tolstoï son écrivain de chevet, dans l'espoir peut-être de trouver chez l'auteur de « Guerre et paix » la confirmation de son art poétique, dédié à dire la vision d'un monde réconcilié à son être profond.
Le blues du dimanche soir par Éric Mukendi, à l'honneur de Chemin d'écriture aujourd'hui. Merci Tirthankar Chanda. RFI, bientôt 7h30, en temps universel, le retour de l'info africaine dans 5 minutes avec François Ballarin, mais d'abord notre reportage culture et une tradition vieille de 100 ans en Lituanie, inscrite même depuis 2008 au patrimoine mondial de l'UNESCO, les festivals de chant, où quand des milliers de choristes se rassemblent sur une même scène. Depuis hier et pendant une semaine, la capitale Vilnius va vivre au rythme des concerts jusqu'au bouquet final avec 12 000 choristes sur scène. Marielle Vituro.
Dans le jardin d'une maison, à l'extérieur de Vilnius, les choristes de l'ensemble habité se sont réunis pour la toute dernière répétition avant le début des festivités. Donata attend avec impatience son concert mardi prochain.
Je me souviens des fêtes précédentes et les répétitions étaient longues et puissantes et il pleuvait, il faisait très chaud et nous, avec des grands costumes. Mais tout le monde était satisfait parce que les milliers de participants chantent et dansent à l'unisson. C'est un bon sentiment.
Le nombre de participants peut donner le tournis. En face des 12 000 choristes et 9 000 danseurs, le public sera encore plus nombreux. La tradition de ces festivals de chant est arrivée de Suisse et d'Allemagne à la fin du 19e siècle, au moment du renouveau national. La Lituanie est la dernière des trois pays baltes à organiser son tout premier festival en 1924. Comme le remarque Rasa Gelgotienė, chef de chœur renommé, le plaisir de chanter est aussi lié à l'affirmation de son identité.
Les Lituaniens étaient très heureux d'obtenir leur indépendance après la Première Guerre mondiale. C'est à cette époque que chanter nos chansons est devenu un marqueur du mouvement national. Pendant la période soviétique, chanter était une forme de résistance. Nous chantions des chants de notre patrimoine, nous chantions en lituanien, réunis tous ensemble avec le sentiment d'être lituanien.
Plus de 30 ans après le retour à l'indépendance de la Lituanie, le contexte géopolitique s'invite à nouveau dans les célébrations. C'est ce que remarque le directeur du festival, Saulius Lausa.
La guerre qui se déroule en ce moment à côté de nous est aussi une guerre culturelle. On résiste pour défendre la langue, les coutumes, l'identité, et cela renforce encore plus ici notre sentiment d'unité.
Durant ce festival, les participants sont surtout là pour se faire plaisir. Egle chantera lors de la journée dédiée au folklore.
J'aime beaucoup ce moment car tout le monde est sur son 31, tout le monde sort son costume traditionnel pour l'occasion.
Le 6 juillet, ils seront plusieurs milliers à défiler dans les rues de Vilnius pour rejoindre le parc Vingis et entonner un programme final long de plusieurs heures. Marielle Vituro, avec l'aide de Guédré Tchoujaïté, Vilnius, RFI.
Notre reportage culture que vous retrouvez bien sûr sur RFI.fr et notre appli Pure Radio. Le journal dans moins de 2 minutes.
RFI, la sélection du mois.
Diefresh Banger and Singa.
Quand je te vois, je suis content.
Ogi.
Je t'aime depuis longtemps, avec toi je ne vois bien pas partir seulement.
Toute la sélection du mois à découvrir sur RFI Musique.
Afrique, mémoire d'un continent, avec Elgas.
Dans la vallée du Nil, bien avant l'apparition des trois religions monothéistes, l'excision se pratique. Appelée encore circoncision pharaonique, elle se diffuse et concerne dans beaucoup de pays africains plus de 90% des femmes. Sophie Bessis nous raconte l'histoire très ancienne de l'excision en historienne et en féministe.
Afrique, mémoire d'un continent, tout à l'heure à 8h10 TU sur RFI.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Adulé par les uns, détesté par les autres, Patrice Lumumba est devenu une référence internationale. Figure politique africaine mondialement connue en raison de son assassinat, Lumumba est un phénomène global transmis à ses héritiers dans le monde entier.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Tout à l'heure sur RFI, 15h10, temps universel.